Alright. Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Et
Roger Fringant.
Sans oublier
Tom.
Tom, oh là là, il a l'air d'avoir la pêche.
Ouais, j'ai la pêche aujourd'hui, je sais pas pourquoi.
Non, mais tant mieux.
Alors, moi, c'est la lune, c'est parce que c'est une lune décroissante.
Ah, c'est peut-être pour
ah,
ça.
Ah ouais, bah moi je trouve ça très agréable.
La lune lui fait beaucoup de mal à notre ami.
J'aime pas qu'on sait la lune bah, ouais, voilà. Croissante parce qu'il est désagréable comme c'est pas permis.
Et surtout, il fait presque jour et vous avez pas le jour.
C'est vrai que, ouais, là. Moi,
je suis en train d'essayer de ranger mes affaires. Je vois ça le plus total.
Désespérément.
Depuis que Jean-Loup a, comment dirais-je, avant, a réglé la lumière,
on voit plus rien.
Oh, bah arrêtez, mais arrêtez.
Il n'y a pas un spot par là.
Attends, je vais vous en mettre qu'un. On va changer de place, je vais vous en mettre un personnel.
Ah ouais, tiens, balance-moi, dans les yeux, balance là. Spot. Ouais.
Bref, vous écoutez les Grignoux tous les mercredis de 20h à 21h30. C'est, j'y arrive. C'est vrai, après quasiment ouais, plus de 30 ans à dire 21h, que dis-je, 20h, 22h, 21h30, bah voilà, c'est comme ça. On vieillit, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tous les mercredis, rediffusion le dimanche. Et si vous voulez en savoir plus, vous tapez les Grignoux sans X, sans S. Sur internet, et vous tomberez sur notre blog où il y a des milliers, des milliers et des milliers d'émissions qu'on a fait auparavant. Roger, à vous, parce que je sais pas ce que
alors,
vous bricolez.
Je suis en train de faire un petit réglage, hein, ça se voit, c'est absolument pas radiophonique
non,
parce que tout le monde s'en fout.
Bah, non,
mais comme Jean-Loup a peur de la lumière, ça doit lui rappeler quand il allait chez l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire, tiens petit, est-ce que tu peux aller allumer la lumière? L'abbé il peut pas, et puis il en profitait pour vous tripoter sous votre soutane d'enfant de cœur. Ouais, bien
voilà,
super.
Moi, ça, voilà, là,
voilà,
ça va.
Là, c'est bien.
Et encore,
là,
c'est limite.
Oh non,
bon bref,
ça va, c'est pas grave.
Allez,
on s'écoute un petit
disque.
Le temps de tout remettre en place, c'est parti. Heureusement qu'on n'est pas à la télé.
Call chain and a lock on road. The song called chain.
Et voilà, bah donc, bah comme tous les mercredis, Roger va vous présenter l'émission.
Parce que c'est vrai que c'est moi qui présente l'émission parce qu'on est à 4-0.
Ouais.
Voilà.
Attendez, je contre-attaque la semaine prochaine
avec un sujet exceptionnel. Non, bah, peut-être que vous nous en direz plus.
Non, mais un petit mot pour que nos auditeurs. Depuis le mois de septembre, j'ai pas de veine. J'ai eu deux pistes sérieuses et à chaque fois, pour les raisons XY, ça n'a pas marché, quoi. Alors que Roger, lui, de manière triomphale, oh, un coup de téléphone, tac, bingo. Et pour le moment, c'est vrai, il y a trois émissions et demie.
Alors,
attendez, je me courbe-tranche de côté.
Gamelle vide, je vous le compterai que pour un demi-point.
Ouais, mais
non, alors... c'est gamelle pleine d'ailleurs.
Mais bon, j'ai eu un peu plus de chance et la semaine prochaine, ce sera un
ça
invité.
Fera un demi-point parce que c'est moi qui avais.
Ce sera un invité personnel et après les vacances, ce sera un invité dont Roger m'a largement suggéré de les contacter. Je l'ai fait. Donc ce soir, qui c'est qu'on reçoit ?
Alors ce soir, on fait dans le théâtre. Alors je sais que ça va vous faire peur parce que à chaque fois, vous allez me dire « Ouh, ça va être en attendant Godot ». Non.
Un peu traumatisé.
Rien à voir avec tout ça. Ce soir, nous recevons deux représentants de la compagnie 4e Écho. Ils nous diront pourquoi 4e Écho, sans doute. Nous recevons David Cabon, pardon, qui est metteur en scène, et François Macaire, qui est acteur dans la pièce qui est intitulée « Barre-toi ». Voilà, une pièce qui a déjà été jouée le week-end dernier, c'est l'histoire d'un plan social, et c'est l'adaptation d'un livre, on va en savoir bien plus tout à l'heure, on aura, je pense, beaucoup de sons, on aura aussi beaucoup d'informations là-dessus, sur le milieu social, quand vous avez en fait 24 heures à peine, même pas 8 heures, où on vous dit, tu te barres.
Ouais, et on va recevoir, je crois, le metteur en scène, c'est
David Cabon.
Voilà, c'est ça. Et un acteur de la...
François Macaire, un adaptateur, parce qu'à l'origine, c'est un bouquin. La pièce « Barre-toi » est tirée d'un ouvrage qui est en référence aussi avec ce qui s'est passé à la Bartoma. La Bartoma, c'est où ça, vous le savez ?
C'est à Rennes, ça. C'est,
C'est l'usine Citroën, toute pourrite, où on fabriquait notamment tous les composants des voitures en caoutchouc. C'était carrément noir, une fumée noire, etc. C'était l'apocalypse.
C'était l'époque, on va dire ça comme ça.
Il y en a toujours, ces usines-là, mais maintenant, elles sont en Chine. Bref, nous recevons, nos invités tout à l'heure, mais auparavant, bien sûr, un petit exemple de programmation à Tom, je crois.
Exactement.
Écoutez, c'est parti, puis après, on attaque la semaine, pas de soucis, Roger, détendez-vous.
Moi, je suis détendu.
Vous avez de la lumière plein.
Je serai surtout détendu quand vous aurez fini de parler.
I'm teaching. C'est la rubrique à qui? Bon Dieu, c'est la rubrique à qui? C'est la rubrique à qui, bon Dieu? C'est la rubrique à qui, bon Dieu de bordel?
Ah, mais c'est la rubrique à Roger!
Eh oui, normalement, c'est la rubrique à Roger, sauf que, personne n'est sans ignorer qu'effectivement, il y a eu quand même pas mal d'événements bien pourrites, et comment Jean-Loup, vous teniez justement, ça vous a un petit peu bouleversifié, comme tout le monde, effectivement, à moins d'être complètement insensible, on ne le pourrait pas. Voilà sur tout ce qui s'est passé, parce que, pas mal d'échos, d'amis avec qui on cause, on se dit, putain, c'est pas possible, quoi. Une espèce d'armée de, une armée suicide.
Vous parlez d'Israël et la bande de Gaza, pour simplifier.
Une espèce d'armée suicide qui seront, même dans une techno partie, un truc comme ça, qui bute encore deux fois plus de gens qu'au Bataclan, l'horreur absolue tout autour de leurs sinistres exploits, et effectivement, les risques que ça dérape, et on en a causé, naturellement, tout le monde en cause, et enfin, en tout cas, et je vais vous laisser la parole, mais effectivement, c'est une véritable... L'Armageddon, vous avez entendu parler de l'Armageddon?
Ah, ça s'est marqué dans la Bible.
Hein, si ouais, l'Armageddon, il y a une vieille...
J'ai lu trois fois la Bible.
Hein, ouais, une vieille légende qui dit que l'Armageddon, c'est-à-dire c'est la fin finale, si vous voulez, aura lieu en Terre Sainte. Et c'est de là que le Seigneur et tous ses saints, dans un tonnerre de trompettes, arriveront pour nous envoyer dans un avenir meilleur. Et s'approche-t-on de l'Armageddon, mon bon Jean-Loup?
Voilà, mais mon intervention va être beaucoup plus courte que votre présentation, qui est bien gentille, ma foi. Non, mais c'est juste un sentiment que je voulais exprimer. De toute façon, ça a toujours été le bordel dans ce coin-là. Vous regardez un peu les bouquins d'histoire.
L'Orient
compliqué. Oh, voilà, patati, patata. Bref, pour simplifier, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu bon gré, mal gré, Israël qui s'est créé, avec l'accord des Britanniques, et puis avec je pense que le génocide aussi a malheureusement donné un sacré coup de pouce, quoi. Et là-dedans, on a oublié un peuple qui existait, qui a vécu depuis un paquet de temps, qu'on appelle les Palestiniens. Et les Palestiniens, leur situation, c'est qu'ils se retrouvent un peu comme les Kurdes, si je peux faire un parallèle, un peuple, une culture, des traditions, etc., mais qui sont à cheval sur trois ou quatre pays.
Ils étaient là, et puis les...
Bon, l'Obi, il a créé un pays, quoi.
Là. Ils étaient là, et c'est comme si on vous créait un pays autour de chez vous, voilà. Puis avec... Et là, on arrive dans une histoire hyper compliquée.
Je continue, n'est pas pour longtemps, après vous donnerez votre avis, quoi.
Non, mais il nous a promis de se tenir.
Oui.
Hein, il a dit.
Oui, il a dit.
Hein, il a dit.
Est-ce qu'il le fera?
Donc voilà, il y a après moult combats où Israël, s'en est plutôt bien tiré, de manière parfois un peu...
Mieux que les Palestiniens, on peut pas dire. Ouais.
Et brutal. Les Palestiniens, les pocasses, comme dirait ma grand-mère, quoi, coincés dans la bande de Gaza pour certains. C'est tout petit, si ma mémoire est bonne, c'est 42 km de haut sur 10 km
de
large, de long, par
contre. Sinon, c'est encore plus infernal, 42 km de haut. Un gigantesque putain de plateau.
Vous savez pourquoi j'ai dit de haut?
Non.
Parce que j'imagine voir ça sur une carte.
Ah oui,
vous comprenez,
oui.
C'est comme certains gamins ou certains adultes vont dire en haut, en bas.
Et vos profs d'histoire, ils ne vous ont jamais dit non.
J'ai oublié. Et qu'on rien. Bon, là où je voulais en venir.
Ou une prison à ciel ouvert.
Le Hamas, ce qu'ils ont fait, mais il ne faut pas déconner. Alors, je suis désolé, comment vous dire. Le Hamas, malgré ce que certains partis politiques. Bon, il y a la NPA, c'est un groupuscule, qu'est-ce qu'ils racontent, c'est pas trop grave. Un autre parti politique plus important, dont je ne citerai pas le nom ou juste le prénom, hein, comme ça pour être sûr que personne ne le reconnaisse, c'est Jean-Luc. Et il dit le Hamas, ils sont arrivés avec des roses pour dire à leurs frères israéliens.
Je crois que c'est pas vraiment.
Je sais bien, je suis dans la caricature.
Ouais,
quoi.
Ouais. Mais qu'en fait, c'est le refus de la part de certains gens de gauche de reconnaître que le Hamas,
c'est un
groupe terroriste.
Arrêtez.
C'est ce qu'a dit Ruffin. D'ailleurs, Ruffin a été clair.
Il a parfaitement raison.
Et il a dit, le Hamas est un groupe terroriste.
Moi, ce que je veux dire, tout simplement, c'est un putain de nom des dieux, un groupe terroriste islamiste, intégriste de la mort.
C'est affreux.
C'est des
Daesh. Rappelez qu'il tient en coupe réglée la bande de Gaza depuis 2007. Il n'y a pas eu d'élection depuis 2007. Que régulièrement, il y a des manifestations de Palestiniens à Gaza contre le Hamas. Et ces pauvres gens, on imagine bien que quand l'armée israélienne va rentrer dans la bande de Gaza, parce que malheureusement, j'ai bien peur qu'ils rentrent, les Israéliens font pas de différence entre le bon et le mot, enfin le Hamas et puis le non Hamas. Et encore une fois, c'est tous les civils qui vont gober.
Voilà, au lieu de me piquer ma rubrique de Hazel, parce qu'on en a parlé avant de préparer l'émission, c'est un peu ce que je voulais dire. Et je voudrais aussi rajouter, les Israéliens, ils ont pas été glopes, hein, aussi vis-à-vis des Palestiniens, où on peut parler de choses ultra-violentes, ce genre de choses. D'un autre côté, le Hamas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a buté des civils à 90%. Et moi, je suis resté un vieux con. Le traité de Genève, etc., qui dit on touche pas aux civils, on touche pas aux civils. Et là, on peut pas parler de victimes collatérales, on va dire. C'est la barbarie, purement et simplement.
Le problème, c'est que ça arrive dans une putain de situation pourrie, même qui était intéressante. C'était la première fois que là, Netanyahou était au pouvoir, mais il y avait des manifestations régulières en Israël contre Netanyahou parce qu'il veut faire passer des lois qui lui permettraient de se faire blanchir pour toutes les saloperies qu'il a fait.
Rajouter aussi, pour ceux qui ne le savent pas, Netanyahou, si je le prononce bien,
Netanyahou.
J'ai du mal à lire l'hébreu. C'est l'ultra ultra méga droite de la mort, quoi. C'est pour ça qu'il y a des manifs aussi.
C'est aussi contre un projet de loi, Jean-Louis. Gouvernement.
Qui est limite dictatorial, c'est-à-dire que la justice, c'est nous maintenant.
Le projet de loi, ça serait ça. Au moment où justement le pouvoir de Netanyahou est fortement contesté, même par des militaires de réserve qui ont dit que si c'était ça, il faudrait pas les appeler en cas de crise. Bon, ce qui naturellement ils ont pas fait parce que voilà. Et ça permet à Netanyahou de s'en sortir par le haut, mais non, c'est par le bas, par le sang, par le massacre, parce qu'il va y avoir forcément une union sacrée d'Israël.
Elle existe, là.
Et pour, pour lutter contre le Hamas. Et on y est à craindre que Netanyahou ramasse des billes là-dessus. Là où on peut se rassurer, c'est que l'histoire, plus personne n'écoute l'histoire, à part des vieux barbus comme moi, c'est bien dommage. En 73, lors de, la guerre du Kippour, c'était Golda Meir qui était au pouvoir, qui était plus largement démocrate que Netanyahou, mais n'empêche que elle a dû rendre des comptes et ça lui a valu son poste et une certaine mise à l'écart. Israël, c'est pas la France, hein, où les responsables politiques attendent 15 ans pour voir leur peine commuée en rien. Mais je pense qu'effectivement, ça serait la dernière bonne nouvelle qu'on pourrait sortir de tout ce fatras horrible, c'est que Netanyahou saute, avoir des dirigeants raisonnables, autre chose que des extrémistes qui parlent de sang et de malheur, quoi. Et cette histoire, il y a quand même juste pour finir, mais c'est vous qui vouliez en parler, mais,
Jean-Loup. Là
sur
mes 3 minutes, vous avez chauffé 5.
Déjà, on n'avait pas dit 3 minutes, on avait dit 30 secondes.
Vous allez bouffer 25.
Et en plus, dernier truc, avec cette histoire-là, on risque d'avoir un Netanyahou renforcé, un Hamas renforcé, parce que les Palestiniens, quand l'armée israélienne ne va pas faire de détails entre chaque camp, tout le monde va rejoindre les plus pourris. Et Armageddon, je vous disais tout à l'heure.
Mais moi, je voulais dire autre chose, si je peux, que vous n'avez pas souligné. Là, vous soulignez le côté politique, il faut le faire. Moi, je parle du côté humain, on va dire ça comme ça. Je pense que les Israéliens, vis-à-vis des Palestiniens, déjà que ce n'était pas forcément le grand amour, ça va être de la haine à cause de massacres.
Ça va sûrement renforcer la haine.
Des massacres, on ne s'attaque pas aux civils. Et comme c'est l'ultra-droite qui est hyper vexée de la mort, ça va faire mal à Gaza. Et le gros problème, je ne suis pas sûr qu'il y ait 100% des Palestiniens qui habitent dans cette fameuse bande de Gaza qui soient pro...
on disait tout à l'heure, il y a des manifs régulières.
Et qui c'est qui va prendre sur la gueule?
Tout le monde.
C'est eux. Et qu'est-ce qui va se passer? Forcément, comme il va y avoir 80 ou 95% de civils, si les Israéliens butent les gens de Hamas, moi je suis content. Vous savez, tout ce qui est intégriste, etc., je hais ça parce que je suis aussi tolérant qu'eux, c'est-à-dire j'ai aucune tolérance, quoi. Mais il va y avoir ce qu'on appelle les boucliers humains, tout simplement, quoi. Et là, non, je m'en fous. Attendez, on va mettre un 10, mais il a parlé plus que moi pour le moment, quoi. Là.
C'est sa rubrique.
Ça va se terminer, je m'en fous. Ça va se terminer. Et vous ne m'auriez pas interrompu.
J'ai rien dit.
Tom, on est témoins.
On dit rien depuis tout à l'heure, vous interrompez tout seul.
Ouais, c'est vrai, il s'interrompt.
C'est pas vrai.
Et il couigne.
C'est pas vrai. Bon, allez, si je peux conclure, c'est en une phrase, si j'y arrive, ça va provoquer un désastre humanitaire. Putain, et j'imagine que les Palestiniens qui vont avoir des membres de leur famille eux-mêmes, etc., qui vont tout va être détruit. Je crois que la haine vis-à-vis de l'Israélien va être aussi forte.
Ah bah oui.
Et je vois pas où est la solution. Pour moi, la solution, mais je suis un naïf, attention, aurait été tout simplement qu'il y ait un État palestinien, un État israélien, chacun dans son coin, vous débrouillez, et puis voilà, ça aurait
c'est
été plus simple.
C'est ce qui était prévu, mais bon, là, ils sont fait un peu coincés à la série d'un conflit où ils ont tous perdu.
Et là, je vois mal qui des deux, qui actuellement va s'asseoir autour de la table pour négocier de manière politique.
Oh, bah, ni le Hamas, ni Netanyahou.
Bah,
c'est
bien
clair.
Sûr que non. Oh là, le Hamas, ce sont les putains d'intégristes. Un disque.
Bah attendez, moi je suis pas prêt.
Ben oui, ben oui, il osait plus le mettre. Là,
allez, c'est parti.
Allez.
Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my life, 'cause I just sat down, I can't sleep at night once I'm round to you. Now I'm wrong from you, this tainted love you give, I give you all a good could give you. Take my tears out, that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want anymore from me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think that love is to break, but I'm sorry, I don't break that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you give, and I give you all a girl could give you. Take my tears out, that's not nearly all. Tainted love, oh, oh, tainted love. Don't judge me, please, I cannot stand the way you tease. I love you, but you hurt me so. So I got to pack my things and go. Oh, once I ran to you, now I run from you. This tainted love you give, I give you all a girl could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, oh, oh.
Et ben voilà, et ben voilà.
Ah, il y a des beaux morceaux hein, dans pour le style de musique.
Là, c'était Imelda Mer. Ah, je n'ai jamais présenté ma fiancée, en fait.
Très joli, très joli comme
ouais, morceau. Excellente version d'un morceau des années 60, hein, Tainted Love. C'est pas la créatrice de ce morceau-là. Et ouais, c'est ma fiancée, elle ne le sait pas encore. Il faut que j'y écrive pour lui le dire, mais j'adore effectivement sa voix.
Allez, Roger, des bonnes nouvelles. Roger.
Un article en lien avec ce dont j'avais parlé la semaine dernière. Vous pouvez faire comme Jean-Loup et mettre une photo de Pascal Praud au-dessus de votre lit pour essayer.
Je vais vous tuer. Je vais vous tuer.
Pour essayer
en direct.
De chasser les punaises de lit. Mais savez-vous, mon bon Jean-Loup, que plutôt qu'une photo de Pascal Praud, eh bien, il y existe du prédateur naturel de la punaise de lit. Le plus efficace, il n'est pas gros. Et il fait partie de la famille des mille pattes. Il ne mesure que quelques millimètres et il s'appelle le scrutigère véloce. Donc vous voyez, genre, il ne fait pas même pas un centimètre.
La guerre, on va dire,
sous votre lit, quoi, ouais. Carrément.
Puis ah, si vous avez
une, ouais, une caméra macro, vous pouvez filmer la scutigère véloce. Russes qui attaquent les colonies de punaises de lit, comment pour les détruire. Mais il y a plus simple, parce que moi je suis désolé, la Scutigervelos, déjà l'article précise pas où on peut se laisser trouver, et il y a d'autres bestioles que l'on peut d'autres bestioles que l'on peut trouver plus facilement. Les araignées adorent la punaise
ouais,
de lit.
Ouais, mais attendez, il faut combien de milliers d'araignées?
Non.
Une bonne araignée.
Vous allez dormir ailleurs. Vous ramassez toutes les araignées là que vous trouvez. Pof, vous les baignez sur votre matelas et vous cartonnez les araignées. Les
et tu te retrouves avec plein de toiles d'araignées partout.
Alors je sais que certains préfèrent le sapin qui fiche le cancer à l'odeur virile d'un homme dans sa voiture.
Top pour les araignées, vous inquiétez pas, un bon pesticide sur les murs. Il y en a plus des araignées là.
Il existe d'autres prédateurs naturels. Il n'y aura pas que l'Armageddon, il y aura peut-être, avant l'Armageddon, l'orthographe. Vous savez que l'orthographe est en train de s'effondrer. Hein. L'article que je viens de piquer, il dit donc parmi les prédateurs naturels, les araignées, je vous ai dit, et les mythes. Et vous savez comment il nous écrit les mythes, lui?
Avec un Y, non?
Ouais, et T-E-H-S. Faute de rien, c'est un cancre. Les mythes, M-I-T-E-S, qui, elles aussi, ne font pas que boulotter votre super costume chemise de soie, mais elles sont aussi capables de bouffer de la punaise de lit. Autrement dit, les mythes, les araignées, on peut trouver, alors que la scutigère, véloce, c'est un peu plus compliqué. Une autre qui paraît hyper efficace, mais je ne sais pas où on trouve ça, la fourmi pharaon. Peut-être aller en Égypte.
Elles construisent des pyramides.
J'en sais rien. Alors, est-ce qu'elles piquent? Parce que c'est pas le tout de mettre des bestioles, comment dirais-je, sur son matelas, mais est-ce qu'elles piquent toutes ces bêtes-là? Et la dernière, la plus facile à obtenir, je termine le meilleur par la fin, les cafards. Le cafard adore la punaise de lit, mes chéris.
Ah.
Et ben voilà, des bonnes nouvelles. Laissez tomber le portrait de Pascal Praud, mon bon chat, et avec un bon cafard.
J'ai adopté les cafards, oh là là.
Ouais.
Et il paraît qu'à Paris, c'est un cauchemar.
Mais conneries.
Ils n'ont pas de punaise de lit, enfin moi.
Des conneries. C'est le marronnier. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis samedi matin, on parle beaucoup moins de la punaise de lit. Hamas a pris la place de la punaise de lit, avec une rapidité confondante.
Et la semaine dernière, je crois que j'avais parlé de marronnier aussi. Bon, tous les deux ans, ça revient à la mode, les punaises de lit ou les poux.
Les émissions des Grignoux avec un an de retard, on en a parlé de la punaise de lit.
Et les poux, c'est une fois tous les deux ans. Vous verrez, l'année prochaine, ce sera les poux.
Et là, parallèlement à la catastrophe guerrière en Palestine, en Afghanistan, il y a eu plus de 2000 morts dès samedi matin pour un tremblement de terre de magnitude 6.5 qui n'est pas rien, et tout le monde s'en bat les roustons.
Vous inquiétez pas, les talibans sont là, et avec l'aide d'Allah, il n'y a aucun problème.
L'État s'en fout également, qui a été attaqué pour défaut de lutte contre les accidents de chasse. C'est un petit dossier chasse. Dans le sillage de contentieux climatiques, une association, un collective, ont sommé ce mardi dernier le gouvernement d'exiger des mesures pour assurer la sécurité de la population. Le collectif Un jour un chasseur et l'association pour la protection des animaux sauvages ont conjointement déposé une demande préalable indemnitaire auprès de la chef du gouvernement et nombre de ses ministres, dont celui de la transition écologique, de la secrétaire d'État à la biodiversité, pour exiger qu'ils prennent sans délai des mesures nationales d'encadrement de la chasse propres à assurer la sécurité et la tranquillité de la population. Parce que je ne sais pas, c'est vrai que vous vous promenez pas beaucoup dans les champs. Mais j'ai des amis qui, aux alentours de Mort-de-Bretagne, étaient partis, je dirais peut-être un peu précocement, à la recherche de, comment dirais-je, de la châtaigne. Moi, je dis ça un peu précoce.
C'était au mois de juin.
À défaut, non, c'est ce week-end dernier. Mais à défaut de châtaigne, ils ont surtout entendu une profusion de coups de fusil. Ça partait dans tous les sens, au point qu'ils ont préféré retourner boire l'apéro plus tôt. Et de plus en plus, alors ça c'est selon l'article que j'ai piqué, il y a de plus en plus de gens, ça les fait flipper, parce que faut quand même rappeler que la saison dernière, les non-chasseurs ont représenté 28% des personnes blessées, alors que la moyenne sur ces 20 dernières années est de 13%. Et pour le moins, cette augmentation
s'ils se blessent
interpelle.
Entre eux, c'est mieux.
Oui, tant qu'à faire. On parle là de ramasseurs de champignons, de randonneurs, de cyclistes qui n'ont rien demandé à personne, même d'automobilistes. Hein, c'est arrivé à l'automne dernier entre la route Rennes-Nantes, mais pour qui le patron des chasseurs a dit « Ah bah ouais, mais on fait pas d'omelette sans casser les œufs », genre de conneries comme ça.
Moi, ce que j'aimerais bien savoir, et c'est vrai que ça fait un moment que ça me titille d'inviter une association de chasseurs, parce que j'y connais pas tout en chasse. Mais vous savez pourquoi je les appelle pas, mon cher Roger.
Mais non, mais...
Parce que vous allez les tuer sur place, là, le... Bon, je plaisante en disant ça.
Je peux vous présenter des gens plus mauvais.
Pour moi, dans ma naïveté, je parle de naïveté, quand on chasse, normalement, c'est défini, il y a des lieux.
Pas tant que ça.
Le chasseur, si j'ai bien compris, normalement, est hyper formé de la mort.
Mais pas tant que ça, puisqu'en janvier dernier, le gouvernement avait présenté un plan pour la sécurité à l'attention du million de chasseurs actuellement recensés. Sur 65 ou 66 millions de personnes, 1 million de gens qui sont potentiellement des assassins. On demandait la mise en place d'un jour de week-end.
C'est dur quand même.
Attendez, j'ai le droit de le dire quand même, non ? Mise en place d'un jour de week-end sans chasse pour mieux répartir le temps de loisir entre chasseurs et non-chasseurs, comme au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Sauf que on a demandé au ministère, c'est le président qui a répondu, qui a dit... C'est open bar. Et je rappelle donc ce chiffre qui est quand même assez terrible, une progression. Là, si la moyenne des accidents auprès des non-chasseurs était de 13%, aujourd'hui, l'année dernière, elle était de 28%. Ça interpelle. D'autant que ça me permet de rebondir. En Côte d'Armor, l'année dernière, il y avait le président de l'association de chasse locale. Féminicide, accident de chasse. On tire au sort. Qu'est-ce qui est ressorti ? Accident de chasse,
bien sûr.
Alors qu'il se promenait avec son fusil sur l'épaule, comme son téléphone Sony.
Vous parlez de chasseur, là.
D'un chasseur, oui, l'année dernière, dans les Côtes d'Armor.
C'est l'arroseur arrosé.
Et donc, du coup, il chope son téléphone, et là, ce bonhomme, âgé de 70 ans, a tiré accidentellement sur sa femme, et elle a reçu une balle juste au-dessus du cœur, et elle est morte sur le coup. Il a donc été jugé, il portait la carabine à l'épaule, et je tiens à être précis qu'on ne nous accuse pas de dire du mal des chasseurs.
Le canon vers l'arrière.
Donc il aurait dit, à mon avis, le casser, vous savez, il ne peut pas tirer. Apparemment, il n'était pas cassé. J'ai sorti mon portable qui sonnait dans ma poche gauche. C'est quand j'ai mis ma carabine sur mon épaule pour décrocher avec ma main droite que le coup est parti à cause de ma manche. Il a expliqué ça. Aucune trace d'alcool ni de produits stupéfiants n'avait été décelée dans l'organisme du chasseur. À l'issue de l'audience, la peine a été exemplaire. Le septuagénaire a été condamné de 18 mois de prison avec sursis. Il devra également verser 800 euros à la Fédération de chasse des Côtes d'Armor. Par contre, son permis de chasse ne lui a pas été retiré.
Oui, mais...
Alors, moi, je dis ça, et je vais conclure, parce que je vais rebondir sur mon autre article. Je dis ça, je dis rien, ce sont les faits. Et donc, si les assos là, qui râlent, elles parlent de fumisterie. En fait, on dit normalement tout ce qui est ressorti du plan proposé par le gouvernement, c'est l'instauration d'une contravention pour les chasseurs surpris, fusil à la main en état d'ivresse manifeste. Cette contravention repose uniquement sur l'appréciation des agents habilités à verbaliser, car aucun taux d'alcool dans le sang n'a été fixé. Autrement dit, vous avez le droit de chasser...
Avec 4 grammes dans ta poche.
Là, un accident de chasse, il tue sa femme. Qu'est-ce qui va arriver si demain, par le plus grand des malheurs, la plus grande des horreurs, vous deviez être amené, même sans ayant pris quoi que ce soit, à tuer quelqu'un à l'issue d'une faute ? Parce que c'est quand même une faute. Il aurait dû casser son fusil, etc. Oui. Donc, à l'issue d'une faute de la route, vous tuez quelqu'un. Qu'est-ce qui va arriver à votre permis, Jean-Loup ?
Pas qu'à mon permis, hein.
Non mais déjà votre permis, qu'est-ce qui va y arriver ?
Adieu permis, adieu voiture, et surtout, aller jusqu'au bout.
Et là,
aller jusqu'au bout.
Bah sûrement peut-être de la prison, etc. Bah,
si, je sais pas, j'ai...
Au lieu d'avoir... Non, vous avez zéro. Parce que là, ce bonhomme, là, il avait zéro. Hein. Zéro drogue, zéro liche, il avait rien, étage. Hein.
Alors, dans ce cas-là, ouais, si j'ai zéro partout, l'assurance rembourse. Mais bon, je vous parle pas du choc. Enfin, je sais pas quoi
non,
vous dire.
Non, mais votre permis saute.
Ouais, mais vous savez, c'est marrant ce que
et
c'est...
Et là, le permis a pas sauté.
C'est l'exemple.
Au moins, le permis de chasse. Après que la justice ait reconnu que 18 mois avec sursis, je pense qu'il ne faut pas faire le commentateur de bistrot. Si la justice a dit ça, bah j'en sais rien. Peut-être qu'elle a jugé bon de le dire. Voilà, point. Sauf que moi, je ne suis pas juge, j'étais pas là, je ne connais pas tous les faits dans le détail. Mais le fait qu'on laisse quand même à ce bonhomme-là, à 70 piges, c'est bon, il a tué assez de bêtes, il vient déjà de tuer sa bonne femme, involontairement, il a dit. Je sais pas, ça suffit, quoi. Après, on va attendre quoi ? Qui tue son gosse ? Qui tue d'autres bêtes ? Enfin, j'en sais rien.
Roger, si je peux intervenir, c'est pour ça que j'aimerais bien bien avoir un jour, on en discutera tranquillement hors antenne, parce que la chasse, je vois ce que c'est, mais il y a des règles du jeu, je comprends pas. Enfin, il y a normalement c'est carré de chez carré de chez carré. C'est un peu.
Non, mais, ça c'est dans votre tête.
Non, vous savez si je peux faire un.
Et il l'a dit trois fois. Carré de chez carré de chez carré.
Alors qu'on se le dit, si je peux terminer, c'est comme si on comparait avec les accidents de voiture. Mais il y a des putains de connards ivres morts, etc., ou qui conduisent comme des pieds, ou qui ont 98 ans, qui tuent. Est-ce que c'est pour ça qu'on interdit
On vous parle de permettre aux ramasseurs de champignons de se promener le dimanche sans risquer de se faire buter. Et deux, qu'une personne qui a provoqué un accident de cette ampleur, je suis désolé, il y a mort d'homme, enfin mort de femme en l'occurrence. Là, je suis désolé, quoi. Qu'on lui laisse son permis de tuer, non. Et une arme de chasse, on peut dire ce qu'on veut sur les pêcheurs, par exemple, mais les pêcheurs, en général, ils se neillent ou ils ramassent une décharge avec la foudre, avec leur canne. Mais ils ne tuent personne avec leurs engins de pêche. Que des poissons... Mais les chasseurs, c'est une arme qui tue, merde.
Je vais prendre un exemple sur votre carré de chez carré.
Ils se tuent, hein, les pêcheurs amateurs.
Ce week-end, je courais comme je cours souvent. J'étais en train de courir, c'était sur une route. Aucun panneau qui disait qu'il y avait de la chasse en cours. Il y a un chevreuil qui passe devant moi et le gars derrière avec son fusil, je le voyais pas. Il a tiré, il m'a pas vu. Et j'étais on va dire 10 mètres.
Est-ce que vous aviez les rayons
le Non, je courais. C'est pas rayons.
Il fait l'avocat du diable, mais après, je ne comprends pas.
Non, mais attendez.
Il n'y avait rien qui me signalait quoi que ce soit.
Là, vous ne comprenez pas. On va se mettre un disque, mais là, je veux juste dire un mot. Je suis pas pro-chasse. Je sais pas quelles sont les règles. C'est tout, ça s'arrête là.
Eh ben, la première règle, c'est de pas tuer sa femme, même par accident.
Vous allez venir avec les chasseurs en Picardie.
Pas mal.
Vous allez
et pas chasser devant un coureur à pied, même si effectivement, je vous le concède, je ne vois pas pourquoi qu'on va courir à pied dans la nature alors qu'on ferait bien mieux de regarder Autotoléo Télé Plus sur M6. C'est ça que vous voulez dire?
Pascal Pro.
Voilà.
C'est encore mieux.
Un petit disque.
Vous êtes vraiment tous les deux.
and sweet fitting on my knee. She can keep her job if she gets it wrong. Ah, but Mr. Marks, I won't need her long. All I need is help for a little while. We can take dictation and learn to smile. And a temporary secretary is what I need for to do the job. I need a has been getting sick. I need a temporary secretary. Temporary secretary. Mr. Marks, I can pay her well if she comes along and can stay a spell. I will promise now that I'll treat her right and will rarely keep her till late at night. I need a a belly dancer. I don't need a true romancer. She can be a diplomat, but I don't need a girl like that. She can be a neurosurgeon if she's doing nothing urgent. What I need's a temporary, temporary secretary.
Of everything to stay on the right track.
She can be a belly dancer. I don't need a true romancer. She can be a diplomat, but I don't need a girl like that. She can be a neurosurgeon if she's doing nothing urgent. What I need's a temporary, temporary secretary.
Roger, le Jean-Loup, ils ont la haine. Des mecs du showbiz qui manipulent la scène. Défont, redéfont les stars à coups de dollars. Alors qu'il y a des mannes quand chien en a marre. Écoute, écoute, écoute les grignoux. Écoute, écoute, écoute les grignoux. Yo, Aziva.
Yes,
Roger est dans la place. Ah, Jean-Loup est dans la place. Oh, ouais.
C'est la séquence le showbiz, on n'aime pas ça.
Malheureusement, c'est pas du showbiz hein, dont on va parler ce soir, mais ça va venir les gars.
Si,
vous,
mais ça
vous
viendra,
inquiétez pas.
Une fois qu'ils seront passés chez
pas.
Les Grignoux, puisque
vous,
nous recevons ce soir, puisque c'est quand même un point Roger, quand même, je tiens à le dire.
Ah bah, allez-y,
voilà,
présentez.
Voilà. T'as vu comment il essaye de gratter, Tom. Il gratte,
présentez.
Il gratte.
Oh
la semaine prochaine, vous pourrez parler de votre invité, si tant est fut qu'il vince.
Oui, vous inquiétez pas, je suis sur le coup. Pas de problème.
C'est ça qui me fait peur.
Allez,
ce soir, présenter. Nous recevons David Cabon, bonsoir.
Bonsoir.
Et François Macaire, bonsoir.
Bonsoir.
Que nous n'avions pas reconnu. On a vu deux pauvres malheureux dans la salle à côté. Ouais, on ne savait pas que c'était nos invités. On délayait, non, on délayait.
Quand vous dites du mal des chasseurs.
Mais je leur ai dit mille fois. J'ai dit mille fois aux invités, vous passez par l'extérieur. Vous dites, vous passez par l'extérieur. Vous passez. Ok, ils me disent tous, ok, Roger, on passe par l'extérieur. Et immanquablement.
Ils se débrouillent.
Vous savez qu'on en a trouvé deux tout secs. On avait invité des bouddhistes. On les a jamais vus vivants. Tous ceux qui étaient dans leur petite robe jaune.
Ils étaient perdus dans le bâtiment.
Ouais, ils sont morts de
énorme.
Faim.
Et on n'arrivait pas
et
à
ils ont
trouver.
Mis du temps à mourir de faim parce que le bouddhiste, ça mange pas beaucoup. Et ben, on les a trouvés. Ils étaient entre une armoire et une porte. Et donc, si vous voulez pas que ça vous arrive, la prochaine fois, vous passez par l'extérieur. Et s'ils sont là ce soir, c'est pour parler d'une pièce de théâtre. C'est pas souvent qu'on parle de théâtre chez les Grignoux. Une pièce de théâtre montée par la compagnie Le Quatrième Écho.
Yes.
Intitulé Barre-toi, qui est l'histoire d'un plan social. Et c'est une pièce de théâtre qui est adaptée d'un ouvrage que vous avez écrit, co-écrit, François, avec d'autres personnes ou écrit tout seul ?
Co-écrit avec d'autres personnes. On avait écrit ça en 2009 suite à des licenciements à la Barre Thomas. En 2007.
Vous étiez employé à la Barre Thomas vous-même, non ?
Même pas. C'était les trois copains qui étaient employés à la Barre Thomas. Et moi, en fin de compte, je me suis retrouvé à les aider parce qu'ils se sont dit, tiens, ces gars-là, j'étais juriste, je suis toujours. Et ils se sont dit, tiens, ce gars-là, comme il est juriste, il doit savoir écrire. Bon, voilà. C'était pas le cas, en réalité. Mais on
ne savait pas.
Mais non, on ne savait pas. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est retrouvé avec Dominique, Denis et Jean-Luc. On a condensé un certain nombre de témoignages des personnes qui ont été licenciées à l'appartement en 2007. Et on a mis tout ça dans un recueil.
Est-ce qu'il s'intitule Barre-toi, pareil aussi ?
Barre-toi, tout pareil.
Tout pareil.
Et ouais. C'était un recueil de concentration de témoignages ? C'était pas sous forme de pièces à l'époque ?
Non, à l'époque, c'était juste des témoignages, juste des tranches de vie. En d'autres termes, comment on a vécu les licenciements ? Il y avait des dessinateurs qui s'étaient associés.
Oui, Pascal Jousselin, qui est très connu.
Ouais,
qui était imbattable.
Oui, c'est ça. On avait fait faire des dessins par un certain nombre de... Ben, Jérôme Le Reculé aussi. Il y avait plein de monde. Et en gros, on avait retranscrit ces trois périodes, c'est-à-dire avant, qu'est-ce qui se passait avant, le jour du licenciement, le jour de l'annonce, et puis après, qu'est-ce que je deviens ?
Alors moi qui ai la mémoire un peu courte,
ça peut arriver.
Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce qui s'est passé avant, pendant ? On a le temps, vous inquiétez pas. On fera de la pub pour la pièce.
J'ai trouvé la chrono.
Alors, 1815, le nom de l'appartement. Alors bon, en gros, Citroën, tout le monde connaît Citroën. Voilà.
On est dans quelle région ?
On est dans la région de Chartres de Bretagne, là.
Okay.
On est vraiment dans la ville de Chartres de Bretagne. On est à la Jeannet.
D'accord.
À la Jeannet, il y a Citroën.
Quoi,
oui, c'est
okay,
ça.
D'accord.
On est en train de parler de Rennes. Mmh. Et on est donc à Chartres de Bretagne, à côté de Rennes. On a la Jeannet. Et puis, en fin de compte, vous avez à côté de la Jeannet un site qu'on va appeler la Barre Thomas, qui est du côté de Saint-Jacques. Pas de Saint-Jacques, du côté de. Je vais retrouver Rue de Lorient. Rue de Lorient, à côté du stade.
Ouais. Et que l'on voit, on la surplombe quand on passe par le train.
La Barre Thomas, c'était une partie de Citroën qui était spécialisée dans les caoutchoucs. Les caoutchoucs de porte, les caoutchoucs.
C'est ce que je disais tout à l'heure avant que vous arriviez. Le truc, c'était une atmosphère dantesque, c'était tout noir, énormément de poussière. J'ai fait un stage, moi, j'ai visité la Barre Thomas.
Ah oui,
ouais. Et je me dis, mais comment les gens font pour bosser dans cet univers de caoutchouc fondu, poussière de caoutchouc?
Ça pue.
Ça pue.
On s'habitue à l'odeur.
Ils ont dû gober, je sais pas en termes de santé, je sais pas ce que ça donne.
Bah, il y en a beaucoup qui sont partis déjà en 2007, ils ont fait le tour. Il y avait pas mal de salariés qui avaient 25-30 ans, ils ont tous été virés. Donc, comme ça, on n'est pas tourné rond.
Okay.
Très rapide.
Et c'était une énorme boîte. C'était plusieurs milliers de salariés.
On avait 5000 salariés sur Citroën. Ouais. Et là, il y avait à l'époque, je crois, au moins 1000 personnes sur la Barre Thomas.
D'accord. Pour les gens qui n'avaient pas forcément beaucoup d'études, etc., ça permettait de bouffer. Bon, dans les conditions, on va dire, les années 70, c'est vrai que l'écologie à l'époque n'était pas aussi développée qu'elle est aujourd'hui, et tant mieux qu'elle le soit aujourd'hui.
Mais qui permettait de bouffer, tu sais, il y avait surtout énormément de personnes qui étaient dans l'agriculture et qui avaient un double emploi.
Ouais.
C'est ça l'histoire de Citroën.
Il y avait
beaucoup d'ouvriers paysans.
Des ouvriers jusqu'en Normandie pour aller les amener, notamment.
Qui faisaient une double journée.
Qui les amenaient plus à la Jeannet quand ils ont développé la Jeannet.
Mais qui dit 5000 ouvriers dans une boîte comme ça, ça sous-entend les syndicats.
Les syndicats Citroën, c'était Citroën Peugeot, c'était surtout les syndicats maison.
Ouais.
Donc en fin de compte, vous aviez des syndicats
jaunes.
Des syndicats jaunes. Des syndicats qui étaient plutôt.
Jaunes.
Comme la couleur de votre micro.
Voilà, c'est ça. Voilà, comme la couleur de votre
micro. Donc des syndicats de
maison.
Papier,
maison. Des syndicats de papier, des syndicats, il fallait adhérer juste pour être en relation avec l'employeur et puis ne pas faire trop de bruit. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'à la Barre Thomas, en fin de compte, vous aviez surtout les personnes qui faisaient du bruit. Et chez Citroën, pas tellement. Vous voyez, on avait commencé à isoler les personnes en situation de handicap, les personnes qui l'ouvraient un peu plus, les personnes dont on ne savait pas quoi faire, on les a mis à la Barre Thomas.
D'accord.
Encore une fois, l'atmosphère de la Barre Thomas, c'est pas la Jeannet.
Je reviens, désolé, sur l'histoire des syndicats. Moi, je suis CGT de la mort, surtout les années 70, etc. Je pouvais pas rentrer. Non. Mais non. C'est pas légal ou c'est moi qui suis naïf là.
C'est pas légal, mais ça existe. Hein. Il faut voir
c'est
que.
Vrai, bah, je sais
parce qu'on a tendance à penser que tout ce qui est légal ou illégal n'existe pas. Mais tout ce qui est. Voilà. Donc,
mais je suis enfin, naïf
quand,
là.
Voilà. Donc en fin de compte, non, il n'y a pas de limite là-dessus. Hein, ça s'arrête jamais. En fin de compte, quand tu veux qu'il n'y ait pas de syndicat, dernièrement, on a vu avec les abattoirs où ils ne voulaient pas de syndicalistes, on leur a tapé dessus.
Oh, je voulais en parler d'ailleurs.
Là, c'était moi. Ouais. C'est moi qui suis cette affaire-là. Donc en fin de compte, on connaît tout à fait cette histoire-là.
Ils n'ont eu aucun soutien de la direction.
Non. Non. Donc en fin de compte, on est toujours sur ces situations-là. Quand on veut pas de syndicat, on veut pas de syndicat. Et dans le bouquin, on le montre dans la pièce théâtre. David le montre. Mmh. Les syndicats ne sont pas les bienvenus. Mais à la limite, ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'il y avait plusieurs syndicats. Il y avait CGT, CFDT, non CGT, FO, CFTC. Et en fin de compte, FO ne bouge pas. À l'époque,
alors, FO, c'était.
Tu étais plutôt à droite à l'époque.
Il y a eu une époque où FO était assez molle. Et curieusement,
à droite,
ouais. Ça peut arriver. Hein.
Non, mais à l'époque.
Bah, des coups de mou.
C'est, plus, c'est plus à gauche de nos jours, mais c'est vrai
mais
qu'en temps.
J'aimerais qu'on revienne quand même parce que
leur
fil quand même.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé
sur votre chronologie, la dernière natte, c'est 2009.
2009, le troisième plan social, oui.
Alors ça se traduit par quoi? Est-ce qu'il y a encore une activité à la Barre Thomas en lien avec Citroën ou c'est tout à fait autre chose?
Et c'est 2009, c'est tout à fait autre chose et c'est tout à fait la même chose. C'est ça qui est compliqué. C'est tout à fait autre chose parce que maintenant on est sur ContiTech, c'est une société qui appartient au groupe Continental. Alors dernièrement dans les médias, on est en train de parler de la fermeture du site parce qu'en gros ils savent toujours pas où ils en sont. Hein. Ça n'a rien changé. Mm-hmm. Et c'est assez loin parce que du coup c'est plus du tout en lien au niveau des statuts et au niveau légal. C'est plutôt en lien avec Citroën qui s'appelle Stellantis maintenant d'ailleurs. Mm. Donc on est vraiment sur des sociétés indépendante.
Mais ils sous-traitent encore pour Citroën ?
Oui, ils sous-traitent encore pour Citroën, ils sous-traitent encore pour beaucoup d'entreprises.
Et ils fabriquent toujours la même cochonnerie toute noire.
Oui, c'est ça. Ah, oui, ça n'a guère changé. Vous avez ouvert vos portes de voiture. Hein.
Mais ils sont, là, je parle actuellement, ils sont en situation, ça va pour eux ou ça craint, je sais. Enfin,
en ce moment, ça craint. Là. En ce moment, ça craint. David a sorti un article hier du journal.
Ouais, c'était un article que j'ai lu moi en juin là, sur la situation de ConfiTech, du coup, là, le dernier hangar en fait qui sur le site de la Barre Thomas, le seul qui n'a pas été détruit en fait. Et ouais, il y a des interrogations sur la suite de l'activité. En tout cas, c'est ce que l'article dit. Moi, je prétends pas, je retranscris juste ce que l'article
dit. Sûr.
Mais ouais, semble-t-il, il y a des inquiétudes. Et donc, cet éternel recommencement, en fait, sur le site de la Barre Thomas. François évoquait trois plans sociaux dans les années 2000, mais je crois qu'il y en a eu d'autres auparavant.
Après,
On est passé en fait de 5500 dans les années 60. Lors des points sociaux, on est à 2000, on arrive à 2000 à peu près quoi.
Actuellement quoi là de.
Lors des plans sociaux des années 2000, on arrive sur 1500, 2000 salariés.
D'accord.
En 30 ans, il y a eu moins de 1500 salariés. Quoi.
Et aujourd'hui.
Et aujourd'hui, ils sont 400, je crois, ils sont 350, 400 sur.
Ah ouais.
Méfiez-vous, ils vont peut-être venir vous chercher.
Non, mais 400. Alors,
pour progresser, dans notre histoire, donc vous décidez de avec ces trois amis là, qui bossaient eux dans l'usine de réaliser cet ouvrage. C'était quoi le but de...
Le but de cet ouvrage...
Paris aux éditions Apagé de chez notre ami M. Guater, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça. Donc en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on fait les éditions Apogée, on fait ce bouquin avec un soutien de la ville de Rennes, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent comment gérer, mais on sait une chose, c'est qu'en fin de compte, il faut garder une mémoire. Donc après il y a toute une histoire, on vérifie, on va au champ libre voir un peu ce qui existe, il n'existait rien. Il y en avait un seul bouquin qui existait sur le plan social, c'était « Dehors les petits lus ». Donc on prépare Bartois, on enregistre les personnes, etc. Et qu'est-ce qu'on voulait là-dedans? C'était ça, c'était montrer la violence. Parce qu'en fin de compte, toutes les personnes ont été isolées très rapidement, ont été sorties de leur poste de travail, ont été, maltraitées.
Ouais.
Dès le début.
Ouais,
et
ouais.
En fin de compte, il y en a même qui ont su qu'ils étaient licenciés par téléphone, par mail ou voilà.
À l'américaine, quoi.
Ouais, c'est ça. Parce que c'est un fonds de pension anglais.
Quand on voit la couverture de ce livre-là, c'est marrant, ça me fait penser énormément aux années 70. On aurait pu voir le joint français à la place, avec rouge et noir, etc.
Oui, c'est vrai, c'était une sacrée époque à Saint-Brieuc.
Ouais, parce qu'il y a eu ça aussi à Saint-Brieuc. Et un ouvrage illustré avec des auteurs de BD et tout, c'est amusant. Et par contre, à quel moment on est passé, donc c'est un ouvrage qui est paru en quelle année?
2009.
Donc ça date
un peu.
15 ans, 14 ans.
Et comment ce projet-là a mûri pour devenir une pièce de théâtre? Alors là, c'est vous, c'est David qui intervient.
Ouais, en fait, bah, du coup, avec François, on se connaît depuis des années. On s'est rencontrés dans des ateliers de théâtre. On
a créé vous le reconnaissez quand il attend quelque part, vous lui ouvrez.
Ouais, c'est des fois, gentil, il me saoule un peu. Donc, je n'ouvre pas, en fait.
C'est gentil. On avait la lumière dans les yeux aussi. C'est
non, j'ai honte. Mais je les ai vus comme de malheureux. Je croyais que c'était des, je sais pas moi, deux de l'émission précédente. Non, des émissions précédentes.
Des ministres.
Vous deviez sonner au passé par l'extérieur. J'en peux plus.
Alors, justement, pour reprendre la question à Roger, ouais, là, le,
comment ouais.
Alors, du coup, voilà, François me présente ce livre et je le lis et en fait, tout simplement, ça me touche, ça m'émeut en fait. Et je me dis, il y a quelque chose à faire. Il faut que ça, comme on lit, il faut que ça se parle, il faut que ça se sache. Il y a vraiment un devoir de mémoire à faire. Et en fait, je le lis donc en 2014, je le mets sur un coin de la table de chevet, et puis j'y reviens 2 ans après, quand la compagnie Quatrième Écho cherche un texte, avec François, on propose aux autres comédiens, voilà, on vous propose d'adapter ce livre, ce recueil de témoignages, et donc faire une écriture théâtrale.
Ouais.
On commence avec François à écrire à 4 mains, et au bout d'un mois, on s'est rendu compte, ou un mois et demi, on s'est rendu compte que c'était pas simple d'écrire à 4 mains.
Je veux bien croire. Ouais.
Donc en fait...
Chacun a fait sa partie. Non, c'est vous qui avez fait.
Et du coup, en fait, François m'a fait confiance. Et
c'est beau.
M'a fait confiance. Ouais, les trois autres co-auteurs aussi. C'est-à-dire que les trois autres co-auteurs m'ont fait confiance aussi pour adapter ce livre. Et donc, j'écris du coup là, plus qu'à 2 mains. Et je présente au bout d'un an, peut-être, je présente le projet aux comédiens. Il y a une quarantaine de témoignages de personnes différentes dans le bouquin. Ah. Moi, j'en ai choisi 13. J'en ai choisi 13 et on les suit dans le théâtre, on les suit sur la partie rumeur, intuition, est-ce que ça va être mon tour, le jour J, comment ça s'est passé le jour J pour ces 13 personnes et comment ils digèrent et comment ils préparent la lutte, le procès contre
la société. La compagnie Quatrième Écho, c'est vous alors, quelque part?
Ah non, la compagnie Quatrième Écho, c'est 10 comédiens.
Des bénévoles.
Ah oui, on est amateur.
Des amateurs.
On est amateur. Ça fait des années qu'on fait tous du théâtre, mais si on est amateur.
De Rennes même.
De Rennes et des communes alentours. Taurigny, Assigny, notamment.
Et pourquoi je vous laisse ça, mais pourquoi Quatrième Écho?
Bah là, il faut une autre. Alors, est-ce qu'on peut être invité à une prochaine émission pour qu'on explique le pourquoi du comment du Quatrième Écho?
Ça n'est pas hasard.
Pourquoi le Quatrième Écho? On aimait bien. Moi, j'aimais bien le nom de la radio d'Avignon qui s'appelle l'Écho des Planches. C'est la radio du festival. Et dans le théâtre, il y a aussi la notion du quatrième mur. Le quatrième mur, c'est le mur invisible qu'il y a entre le public et les comédiens, en fait. Et du coup, on aimait bien ces deux terminologies de théâtre. Et on a fait un mix des deux. Ça donne la compagnie, le Quatrième Écho. Nous a pris 3 mois, voire 6 à peu près, pour trouver
c'est beau, hein. J'aime bien le savoir, parce que Quatrième Écho, c'est pas...
c'est pas courant, ouais.
On se met un petit disque, et c'est moi qui pose la question dès que le disque est terminé.
Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous étouffer.
Bah oui, vous êtes capable, il est capable.
Oh, vous êtes bien sucré, François.
Allez, c'est parti.
I'm always seeking a
so from the top of my castle. So fast break.
Now you're picking up the broadcast and that long last cut to the riff-raff, right to the chief of Seville, Presidente, oh Solamente.
Because the jams make you feel for the rums and the rhythm, your hands are on the wheel. I'm tough and I'm driven like a Maserati or something like a Ninja Gamma. Wind your body wrapped up amongst Ninja. Something right. Well, just keep it moving, 'cause I'm dancing in the light. I said I must be doing something right, right, right. Well, out of the darkness, 'cause I'm dancing in the light. Try to set up, 'cause I'm rock and rollin', rappin' and I'm rippin' it up like a rattlesnake, a shakin', and you can't get enough. Quick like the rapper, shoot that rhymes with the sabre to your microphone, chicken it to your parties and all night. If you think you're Superman, then I'm the kryptonite. If you think you're Lance Leather, then I'm the Black Knight. Come follow me. If you think you're Superman, then I'm the kryptonite. If you think you're Lance Leather, then I'm the Black Knight. Say, I must be doing something right. Well, just keep it moving, 'cause I'm dancing in the light. I said I must be doing something right, right, right. Out of the darkness, 'cause I'm dancing in the light. Said I must be doing something right. Well, just keep it moving, 'cause I'm dancing in the light. Said I must be doing something right, right, right. Well, out of the darkness, 'cause I'm dancing in the light.
Et alors voilà, alors que nous sommes toujours en compagnie de François et David, ouais. Jean-Loup va poser sa question, qu'en plus il a pris le soin de noter pour ne pas l'oublier.
Pour ne pas l'oublier, parce que c'est vrai, des fois je cause...
Sur un carnet offert par...
Roger, regardez.
Voilà, le carnet, alors, vous voyez, économie recyclée. Voilà,
vous voyez le problème, mais c'est je m'en sers. Il faut que vous mettiez un
vous
peu plus de
carton. Vous êtes mon meilleur client, Jean-Loup.
Mais je vous l'ai dit, parce que Roger fait des carnets à ses moments perdus, avec des jolis dessins, les motifs sont souvent super sympa, mais c'est pas encore la qualité.
Ah bah, c'est pas la qualité non, de
vous
chez...
Vous allez vous améliorer, quoi. Donc, la question que je voulais poser justement à François, c'est un petit peu littéraire. Comment on fait pour transférer des récits en une pièce de théâtre?
David, coupe. Parlons
de David, je suis désolé.
Non, il n'y a pas de souci, Gérard.
Non, mais il va vous appeler de tous les noms possibles.
Vous savez que Gérard, c'est mon deuxième prénom.
C'était vraiment ça la difficulté par rapport à ce projet. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, là, le bouquin, ce sont que des témoignages. La difficulté pour moi, pour nous, c'était de transcrire ça sur une écriture théâtrale et de créer des dialogues, créer des scènes à plusieurs. On a des scènes collectives en fin de pièce où les sept comédiens sont ensemble sur scène. Et du coup, il m'a fallu en fait retravailler tous ces monologues et réinterpréter,
mais en gardant l'esprit.
Ah bah regarde, à 95%, ce qui est dit par les comédiens, c'est le texte du livre. Les 5%, ce sont les phases de transition que j'ai rajoutées avec les comédiens lors des répètes pour créer du lien entre les scènes. C'est parfois la création de personnages, mais de personnages existants. Parfois les salariés évoquent leur agent de maîtrise, leur chef ou les RH. Moi, j'ai mis dedans. Donc dans le bouquin, on les entend pas, ils n'ont pas été interviewés. Mais par contre, les ex-salariés parlent d'eux dans le bouquin. Et moi, okay. j'ai récupéré cette matière pour créer ces personnages-là et pour avoir du lien, du contact, du conflit entre la partie salariée et la partie RH, la partie patron, en fait. Quoi.
Mais
et,
ça sous-entend, en fait, quelque part, une interprétation que vous essayez d'être le plus honnête possible.
L'interprétation, c'est vraiment... J'ai essayé d'être le plus fidèle au bouquin. Et pour ça, j'ai notamment rencontré en fait, des ex-salariés pendant la création, pendant l'écriture, en fait. Et on parlait tout à l'heure des odeurs. Jean-Luc et notamment Dominique sont venus expliquer, raconter aux comédiens, à moi, en fait, ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu, et le bruit, les odeurs. Et moi, je me suis nourri de ça aussi pour la pièce.
Vous cherchez à recréer ça, cette ambiance noire, là ?
Par du son, par une démarche. Avec les comédiens, on a mis en place une démarche spécifique type temps moderne, donc vraiment la notion de le travail à la chaîne, en fait, quoi. Et on a mis ça dans les différents déplacements qu'ont les salariés, parce qu'en fait il y a ce côté formatage, en fait. Parce que formatage, lorsqu'on travaille dans une usine...
Ah bah, c'est un peu comme Charlie Chaplin.
Voilà, c'est les temps modernes. C'est les temps modernes. Et donc, on a ce rouleau compresseur qui se met en place. Et donc, cet éternel recommencement. Et c'est aussi l'histoire de la barre Thomas. Un éternel recommencement, notamment dans les années 2000, de plans sociaux. Trois plans sociaux dans les années 2000. Donc des centaines de personnes sur le carreau. Et nous, voilà, par ce projet-là, on a voulu aussi rendre hommage à ces personnes-là, même si moi, personnellement, j'en connais aucun. J'ai appris à les connaître. Mais c'est aussi, il faut faire savoir que ça existe et que ça existait. Et je pense que ça existe encore, malheureusement, ces pratiques dures. Les salariés, il faut vous dire, ils étaient en 30 ans de boîte, ils étaient licenciés en 20 minutes. Voilà, c'était ça le plan social.
Ouais, normalement, c'est pas ça, la France. Enfin, je suis pareil.
Vous êtes vraiment naïf. Hein. Vous savez quoi ? Je soupçonne d'avoir été fonctionnaire.
On m'a appris des valeurs, et moi, comme un con, j'y crois. Comme un con, en chantant.
Bah non, mais le monde du privé, c'est pas ça.
J'ai une deuxième et dernière question à vous poser. Vous êtes metteur en scène, c'est ça, de la pièce, hein, je dis pas de bêtises.
De la pièce, ouais. Pas de la troupe, hein, de la pièce. On a eu d'autres projets et c'était souvent une mise en scène collective que l'on faisait. Et là, sur ce projet, c'est moi qui ai mis en scène.
Alors, c'est quoi être metteur en scène ? Vous allez me dire, c'est mettre en scène. Mais ça veut dire quoi ? Juste une petite suggestion. Souvent, quand on voit des pièces de théâtre, on va dire professionnelles, il y a le nom des deux artistes principaux et le nom du metteur en scène qui est marqué en gras, en fait. Grosso modo, c'est quoi son boulot ? Ça va être compliqué, non ? Je sais pas. Là,
Alors, oui, c'est compliqué, mais c'est surtout un... pour moi, ça reste un loisir, en fait.
Ah oui,
ça reste un loisir,
quoi.
C'est une passion, et c'est des copains que... c'est une aventure collective, et c'est mettre en... cette aventure collective, en fait, c'est mettre en lumière ces comédiens, ce livre, et c'est comment par de la documentation, par mes rencontres avec les ex-salariés, avec les auteurs, imager en fait ce livre-là. Et donc, en effet, avant d'écrire, il y a eu tout ce travail de documentation que j'ai dû faire avec l'aide de François notamment, donc de lire des articles, de regarder des reportages, de m'imprégner en fait de ce qu'était la barre Thomas, de rencontrer les ex-salariés, et tout ça me permet d'avoir d'avoir des idées.
Une vision, en fait, globale, vision physique de ce qui pourrait se passer sur scène.
De me souvenir de mes travaux, mes jobs d'été, quand je faisais du travail à la chaîne. En fait, c'est ça aussi, c'est se nourrir, en fait, de notre expérience, mais aussi de l'expérience de tous les comédiens, pour créer, une scénographie type temps moderne, travail à la chaîne.
Est-ce que c'est votre métier principal ?
Oui, c'est ce que vous voulez demander.
On est tous amateurs. On est tous amateurs. Pour nous tous, c'est un loisir, en fait. Et voilà. Et
mais par contre, c'est quand même la mise en scène. Vous jouez pas, David ?
Non. Et le jour du spectacle, je suis à la lumière. Et on a deux autres personnes de la troupe qui sont au son.
Pour revenir à ce que dit Jean-Loup, c'est vrai que c'est quand même pratique dans une troupe d'avoir quelqu'un qui assume le travail de mise en scène. C'est un gros boulot.
Est-ce que c'est obligatoire ?
Ah bah ouais.
Je pense, hein, c'est un chef d'orchestre.
Vous n'allez pas faire n'importe quoi.
Ouais, c'est ça. On a fait dans la troupe, en fait, on a fait des mises en scène collectives. On a fait deux projets avec des mises en scène individuelles. En fait, il y a à boire et à manger dans les deux. En fait, il y a du plus et du moins dans les deux. Et nous, ça fonctionne bien, je crois, j'espère, en tout cas, dans la troupe, dans ce mode de fonctionnement-là. Peut-être que le futur projet qu'on va faire, bah, ce sera à nouveau une mise en scène collective. Mais en tout cas, le boulot de metteur en scène ou de metteuse en scène, c'est justement ça, c'est mettre en lumière. Et puis, c'est d'avoir... des fois, c'est dur à dire, mais un certain cadre, en fait, parce qu'il y a le côté artistique. Certes, mais des fois, bah, il faut que ça rentre quand même dans le...
Et après, il faut que vous arriviez à convaincre vos actrices et acteurs du bien fondé de vos choix de mise en scène.
Alors, c'est pas toujours facile. Et là, ils entendent, ils écoutent, je vais me faire incendier. Mais non, ils sont adorables, ils sont
super. Parce qu'il y a quand même du fait, le metteur en scène, c'est un peu le patron du jeu, quoi, quelque
part.
C'est
ça. Ouais, mais avant, il y a toujours cette discussion avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je leur propose une direction, ils testent. On essaie, on répète, ils me donnent leur retour, on rediscute, et au final, certes, c'est moi qui tranche, mais mine de rien, c'est jamais, enfin, j'espère en tout cas, c'est jamais, c'est comme ça, point barre. Il y a eu tout ce travail en amont de discussion avec les comédiens pour savoir eux qu'est-ce qu'ils ressentent en fait.
Parce que ça peut vous arriver de vous tromper, c'est-à-dire de demander à une actrice ou à un acteur de faire telle ou telle chose, etc. Puis c'est pas possible. Qu'en plus elles doivent parler, etc. C'est matériellement pas possible. Ça vous arrive de vous planter.
Je confirme que je me suis trompé à plusieurs reprises sur ce projet, même dès le départ dans l'écriture. Et j'ai aucun problème à le dire que je me suis planté et que parfois j'ai amené les comédiens dans une mauvaise direction. On a réussi à rétro-pédaler parce que je les ai écoutés. Et donc justement, c'est ce que je disais, voilà, on faut admettre ses erreurs et recommencer. Mais
en étant, co-auteur du texte, vous pouvez vous permettre de changer quelques dialogues, etc. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire, ça passe pas, ou...
Il n'y a pas de souci. En fait, les retranscriptions de...
Non, pas changer les dialogues, parce qu'on ne peut pas changer le fond, Jean-Loup.
Bah, celui qui l'a écrit...
On n'a pas changé. Il y a eu des adaptations par rapport au texte pour pouvoir les mettre en scène.
Voilà.
Et des choix. Mais on a quasiment, je crois, David, on a quasiment rien touché.
On ne peut pas transformer la parole.
La parole, en fait, si vous voulez, là où il y a eu les fameux 5% de réécriture, à peu près, c'est pour créer du lien entre les scènes. Pour créer des... Donc c'est parfois du texte off, ce qu'on appelle le texte off, du texte en fond de scène, etc., qui n'est pas écrit dans le bouquin, mais qui permet de créer...
De faire un lien.
Je vais aller à la salle de pause.
Tout compris là, c'est qu'en fin de compte, on assiste quand même à des licenciements en direct.
Bah oui.
C'est ça, on ne va pas tourner en rond.
Bah oui.
Là, on voit des gens se faire licencier en live.
Alors,
c'est vrai qu'on en parle, mais quand on le voit, c'est un peu sec.
Alors, vous l'avez joué du coup cette pièce, parce que là, on est un peu à la bourre, mais c'est parce que la semaine dernière, on était déjà pris.
Et là, on parle que de la pièce.
Là, on était un petit peu pris, on n'a pas eu le temps de vous. Et comment ça s'est passé? Alors, c'était la première représentation la semaine dernière.
On a joué 10 fois cette
dix fois
pièce.
Déjà.
Ouais, 10 fois. On l'a joué. La première était le 30 avril 22 et on a joué 2 fois ce week-end à Pompéan et dans le festival et à Belès dans le cadre du festival Val d'Aubigné.
Avril 1922.
2022. Pardon.
C'était il y a. Pardon. Oui. Désolé.
Non. Non. 2022.
Bon, vous avez rectifié de vous-même, quoi. C'était il y a
bien bonne intervention.
Il y a plus d'un an et demi.
La première a eu lieu le 30 avril 2022 et on a joué 2 fois ce week-end. On a joué 10 fois et on a la chance pour le moment. On est
sold out
à 8 reprises. Ouais. On a fait salle comble ce week-end.
Parce que c'est quand même un sujet qui préoccupe, quoi.
Oui.
Barre-toi, déjà, le titre, il est un peu provocateur. On se dit, tiens, il se passe pas grand-chose chez moi, je vais quand même aller voir ça. Tiens, ça peut être intéressant. Et puis, les gens se renseignent. Ça parle au public, en fait.
Ça parle au public parce que c'est aussi local. On va pas tourner en rond. C'est-à-dire que quand on parle de Citroën, il y a beaucoup de personnes de nos entourages qui ont travaillé à Citroën. Donc, les gens viennent comprendre, et puis quelquefois même voir s'ils connaissent pas les personnes qui sont jouées.
Ouais.
Parce que vous pouvez connaître
ça fait 15 ans, c'est ça.
Ouais. Ouais. Donc vous pouvez connaître des personnes de votre famille qui sont interprétées dans les rôles là. Et donc c'est vrai que ça mène et je comprends parce que, et puis il y a la mise en scène, on va pas tourner en rond, c'est pas parce que David est là, mais il y a aussi un truc magique.
Ouais, ouais.
Il y a la musique, il y a des images, on transfère des images de l'époque,
OK.
Et vous tendez
côté visuel et auditif.
Voilà. Et il nous tend une perche d'ailleurs, François, parce qu'ils ont sélectionné un morceau. Vous allez pouvoir nous dire. Donc c'est de François Miossec, si je dis pas de bêtises.
Christophe Musek.
Bah
Christophe.
Ouais.
Oh, alors là, je peux pas laisser passer ça.
Et vous avez raison, René. Vous avez raison, René. Vous pouvez m'appeler n'importe comment désormais. Mais je n'écoute jamais, moi, Christophe Musek.
Je suis un fan de base.
Et ben voilà. Et ben c'est juste.
En plus, c'est vrai, depuis
le début. Franck Musek.
De Franck Musek. Alors pourquoi vous avez choisi ce morceau-là?
Bah, parce que Musek, c'est génial.
Mais non, mais il va vous le dire.
C'est une bonne raison.
Bah, en fait, à l'écriture, ce projet, enfin, François a un peu parlé. On a mis de la vidéo, de la chanson. Donc, on chante aussi en direct. On a mis de la musique aussi pour avoir des phases de transition en fait dans la pièce. Et en fait, dans le choix des chansons, je me suis inspiré du milieu du travail. Et en effet, j'aime ce que fait Musek depuis
aussi,
des années.
Aussi.
Et en fait, il y avait cette chanson. Les chiens de paille.
Rien à voir avec le film en Irlande.
Non, rien à voir. Et qui dit travailler pour qui, pourquoi, pour quel résultat, pour quel patronat. Et en fait, moi, ces paroles-là, je les connaissais avant le projet. Ben voilà. Mais pour tout moi, ça collait, mais c'était tout à fait.
Maestro
Serge ou.
Albert, vous pouvez l'appeler Albert. On s'en fout un peu chez les Grignoux.
Il n'y a plus de prénom ce soir.
J'ai un problème.
Les prénoms, ça va, ça vient.
J'adore Musek et en plus, je connais la chanson.
Lequel? Il y a aussi René Musek.
Il a sorti une dizaine d'années.
Il y a René Musek. Je sais que c'est un excellent cordonnier.
C'est lancé,
c'est
lancé.
Les hommes qui travaillent, qui ne sont plus que chiens de paille, qui émergent au petit jour d'un sommeil un peu trop lourd, de la poussière plein les paupières et le souffle un peu trop court. Les hommes qui travaillent, qui se réveillent, vaille que vaille. Travailler pour qui, pourquoi, pour quel résultat, pour quelle vie tu crois. Donner sa vie à qui, à quoi, pour quel résultat, pour quel patronat. Travailler pour qui, pourquoi, comment. Fait-on pour tout prendre sur soi? On ne se voyait pas comme ça, peut-être pas comme au cinéma, mais quand même un peu plus beau et surtout un peu plus fier et même un peu plus grand parfois. Si je te le dis, est-ce que tu me crois? Je n'en peux plus de cette vie-là. Je craquerai avant la fin du mois. Travailler pour qui, pourquoi, comment fait-on, pour quel résultat? Donner sa vie à qui, à quoi, pour quel résultat, pour quel patronat? Travailler pour qui, pourquoi, comment fait-on pour tout prendre sur soi? Du col blanc au bleu de travail, c'est toujours la même bataille. Ne jamais montrer ses failles, rester sur son quant à soi. Quand on voudrait semer la pagaille, ouvrir sa gueule au moins une fois, dire enfin ce qu'on fout là, se rendre malade pour ce putain d'emploi. Travailler pour qui, pourquoi, comment fait-on pour tout prendre sur soi? Donner sa vie à qui, à quoi, pour quel résultat, pour quel salariat? Travailler pour qui, pourquoi, comment fait-on pour en arriver là?
que Jean-Loup va devoir effectivement se taire 30 secondes parce que ça serait bien qu'on rende hommage aussi à la compagnie du 4e écho. C'est quoi la compagnie du 4e écho? Vous êtes combien? Comment ça bosse? Comment que c'est?
Ouais, ça David. Bosse bien, ça bosse bien. On s'est rencontrés, donc on est 11 dans la compagnie, 10 comédiens et Sébastien du coup à la régie son. Ce qui est chouette sur ce projet Bartois, c'est qu'en fait l'ensemble de la troupe participe à ce projet. Puisqu'en fait, on est 3 à la régie, donc c'est vraiment un projet de troupe. On s'est rencontrés, on a été 6 ou 7 comédiens à se rencontrer en 2011 au Cercle Paulbert à Patel, en atelier théâtre. Et on a souhaité se réunir, se retrouver pour créer une troupe de théâtre et continuer l'aventure et faire des projets de théâtre en dehors d'ateliers entre guillemets classiques. Et on a créé donc la troupe de théâtre Le 4e écho et on est à notre 7e ou 8e création.
C'est pas rien.
Et tout le monde bénévole, c'est ça. 100% de bénévoles.
Tous amateurs. Non,
c'est important. Ouais,
mais c'est pas rien. Il faut oser se promener sur la. D'où ça vient, j'ai envie de vous poser la question, le désir des gens de se mettre en danger quelque part. Prendre le risque d'être ridicule, de bavocher, de pas être dans le ton, d'oublier son texte. Qu'est-ce qui motive? Alors François, apparemment vous avez joué.
C'est un ego disproportionné.
Qu'est-ce qui vous motive pour prendre le risque?
Il a pas tort sur quelque chose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu te mets en danger. Il y a un risque, mais c'est tellement plaisant d'apporter quelque chose. Tu vois, la plupart du temps, on a fait des pièces. On a aussi fait des pièces de Roald Dahl. Tu sais, pour les enfants, des contes, etc.
Exactement.
Et c'était génial, ces trucs. Pour les enfants, ils en demandaient. On rigolait, on s'amusait. Là, c'est moins rigolo. Mais on essaie tout le temps d'apporter quelque chose de magique. Tu vois, là, on apporte des paroles de personnes qui ont souffert. À un moment, on apporte des paroles de personnes qui se sont amusées. Peu importe, le résultat est tout le temps le même. Et à partir du moment où tu apportes un message, je crois que tu as rempli ton rôle. Et là, tu arrives à obtenir ton texte. Il vient naturellement.
Est-ce que le comédien, finalement, n'est pas dans le personnage? C'est-à-dire qu'il il coupe avec son ego, comme on dit, pour être dans le personnage.
Oui, je vais dire oui.
Délire, hein, peut-être.
Oui, alors moi qui suis plutôt pro-salarié, quelquefois il m'arrive même de faire un employeur. Alors tu vois, c'est pour te dire que je peux jouer n'importe quel personnage. Mais
je vous en crois capable.
En chemise blanche, mais en chemise blanche, c'est dur.
La plupart des escrocs sont d'excellents comédiens. Tu vois,
je l'ai pas reconnu. Moi, je pensais que c'était.
Un DRH. Mais et donc pour revenir à ça, en fin de compte, on arrive en effet, comme tu dis, à incarner quelque chose. On doit faire passer un message, on doit mettre en place quelque chose, et on arrive en fin de compte naturellement. Tu te mets dans la peau de quelqu'un, et en fin de compte, tu te mets dans la peau de quelqu'un, mais tu joues quand même c'est toi qui joues, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Mais c'est du boulot.
On travestit pas.
Boulot de retenir son texte, de bien tenir la mise en scène? Ça a demandé d'heures ou de soirées de répétition?
En fait, ce projet-là, moi j'ai commencé à écrire fin 2016. On a commencé à fin 2016, je commençais à écrire. 2018, on commence le travail plateau. Mars 2020, crise sanitaire. Sachant que notre première était prévue mai 2020.
Ah oui.
Donc en
et
fait
là,
deux
COVID,
mois avant,
terminé. Bye.
Rideau. Donc en fait, en gros, un an et demi de
stand-by.
Ça repart. Enfin, ça s'arrête, etc. On reprend en septembre 21 pour arriver ensuite en
2022.
En avril 22, tout à fait, à la première. Donc ce projet-là, écriture fin 2016, 22. Donc ça a pris quand même 5-6 ans avec
C'est magique quand même. Il y a une fidélité de l'équipe. Il y a une fidélité au projet, il y a un enthousiasme quand même.
Ouais, parce que du coup, c'est quand même pas simple, parce qu'on venait tous de vivre un truc de dingue qu'on avait tous jamais vécu, cette crise sanitaire. Qu'est-ce qui nous tombe sur la gueule? Et en fait, les copains ont décidé on était à 2 mois de jouer la première, tout s'arrête, et un an et demi plus tard, on reprend les répètes. Et en ça, moi, j'en suis hyper reconnaissant des comédiens de pas avoir lâché le projet, c'est fort aussi ce qu'ils ont fait, je les remercie et une question je crois sur ma bouche.
C'est
bien.
Il nous reste 1 minute 40 à peu près. La première chose, où c'est qu'on peut vous retrouver là bientôt, incessamment sous peu?
Est-ce que vous allez rejouer cette pièce? Parce que là, nous, on arrive après la bataille, comme la cavalerie.
Ah bah oui, ouais,
mais oui, mais je vous l'avais dit, François, je vous l'avais dit, on était pris.
On revient en février, si vous annoncez une date.
Alors, en février. Alors,
est-ce que vous avez un site internet, bien sûr?
Ouais, il y a la page Facebook du 4ème écho. J'ai plus le nom, machin, mais c'est Facebook, le 4ème écho. Vous trouverez
le 4ème que l'écrit en lettres.
Le 4ème écho, tout à fait.
Vous trouverez tous les références
sur la page Facebook. La prochaine date à retenir, c'est le 11 février à 15h, donc après le poulet frites. Rendez-vous au Cercle Paulbert Norrois le 11 février, ouais. 15h.
11 février, vous me dites.
À côté du stade Rennais. Okay. Et puis, on va jouer aussi. On a la chance aussi d'avoir une prof de sciences économiques et sociales qui nous a vus. Et on va jouer pour des lycéens le 31 mai à Brial-sur-Montfort.
Ouais,
et du coup,
ça.
Possiblement, cette date, elle va être surtout pour les lycéens. Et peut-être, elle sera ouverte au public.
Est-ce qu'il est possible que vous fassiez pour les lycéens avant le 11 février?
Faut voir avec le manager.
Les calés, c'est calé au 31 mai. Ouais. Parce que c'est. Enfin bref, non, je.
La dernière question, il nous reste 20 secondes.
Ouais.
Est-ce que vous souhaiteriez devenir professionnel, David?
Non, ça m'a jamais traversé l'esprit.
Voilà. Mais on l'est quand même un petit peu, en fait. Faut arrêter. Avec François, tout le temps qu'on passe sur scène, on l'est quand même un peu. Mais professionnel. Oui.
Voilà. Vous êtes des professionnels.
Nous sommes des amateurs professionnels.
Ah, vous êtes des parfait. Amateurs, vous êtes des professionnels non rémunérés.
Un parfait mot de conclusion.
Voilà.
On vous dit salut. À la semaine prochaine.
Merci à tous les deux.